appareillage. On va parler des chaînes d'angles. Alors, les angles d'une maison, il faut que les deux murs s'emboîtent. C'est pour ça qu'on parle de chaînage. Ce chaînage, c'est une chaîne d'angles, mais il peut y avoir des chaînages au milieu. C'est le même principe. Une comme ça, en profondeur. C'est mauvais mon truc. Alors, regardez bien, une pierre dans un sens, une autre dans l'autre. Une pierre dans ce sens, une autre dans l'autre. Une dans ce sens, une autre dans l'autre. Elles vont deux par deux. On les appelle aussi en besace. Chaînage en besace, parce que besace veut dire bissac. Ils disent les maçons, même les architectes. Ils vous montrent ça en besace. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire une qui est comme ça, une qui est comme ça, etc. C'est normal. C'est-à-dire en bissac. Mais appelons ça chaîne d'angle. Mais beaucoup, par exemple, Mal, il parle toujours de besace. Bon. Alors, voyez-vous, ça, alors, cette pierre-là est longue. Elle est longue là, elle est longue là. Je ne vous ai pas parlé de palmeresse et de boutis. Je ne vais pas en parler tout de suite. Voilà un autre chaînage, un chaîne d'angle, voyez. Mais il n'y a aucune pierre taillée, c'est pas en granit, c'est en gneiss, et on est bien obligé de faire un chaînage. Et il faut le faire avec les pierres qu'on a sous les pieds. Alors quand on décharge les pierres, tout de suite il y a un gouya, c'est-à-dire un garçon, ou un maçon, un petit maçon, qui sort tout de suite les belles qui vont être touchées, qui, du premier coup, il sait très bien celles qui vont aller dans les angles. Le maçon lui dit, celle-là, elle ira. Oh, celle-là, je ne la veux pas. Celle-là, elle ira. Bon, elle met de côté, ça. Alors, ce sont des belles pierres qui sont posées comme ça. Comme ça, je vais pouvoir parler des boutis et des palmeresses. Ça va. Alors, vous voyez, mais vous avez remarqué que c'est toutes les deux. Il y en a une comme ça, là, une comme ça, là. On ne pourrait pas les empiler. Mais ça, c'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors elles sont donc croisées. Alors c'est merveilleux ça. Et alors c'est facile à faire. Aujourd'hui on croirait qu'il faut sortir des beaux-arts pour faire ça, mais pas du tout. Pas du tout, il suffit d'être maçon et de comprendre qu'une pierre se pose comme elle est, on la retouche au têtu, on ne peut pas les tailler celle-là. Et alors, on travaille au plomb. C'est-à-dire vous avez un fil et avec un carré là et le plomb en bas. Et lorsque le carré touche la pierre là, le bas du plomb qui est... Comment tu as dit tout à l'heure ? Si, il est comme ce cercle là, comme ça là.
Trapèze.
Voilà, il est en trapèze. Et le bas du trapèze correspond au carré qui est là-haut. Alors, et vous, votre plomb, et vous voyez très bien si votre pierre que vous posez là est à l'aplomb de celle-là. Alors, comment faire avec des pierres non taillées un aplomb? Eh bien, voilà. On choisit dans la pierre qui a été posée plus bas l'arête vive qui est la plus et la mieux placée sur la ligne verticale. Et s'il y a un seul point, c'est le seul point qui nous servira de savoir. Parce que sur une pierre comme ça, il n'y a rien d'exact. Mais il y a un point, il faut trouver le point. Ça, il faut trouver qu'il y a un point et que votre plomb le touche en bas. Et si ce point est touché, c'est bon. Elle est dans le pan du mur. Voyez-vous ? Et c'est travailler au plomb, ça, au fil à plomb. Alors, dans les miniatures du Moyen-Âge, vous les voyez travailler au fil à plomb et au niveau. Leur niveau, c'est comme ça. C'est un triangle avec un plat et il y a une ligne et on voit très bien le niveau. Et ils travaillent comme ça. Vous regardez, ça c'est merveilleux, les miniatures des manuscrits. Alors, voilà pour le... Voilà. Alors, cette pierre-là, elle est placée en pan, dans le pan. On appelle ça une palmeresse, puisqu'elle est en pan, dans le pan. Qu'est-ce que le pan? Le pan, c'est une partie du mur, un côté du mur. Le pan. En oc, en patois, ou en langue, on dit de ce côté ou de l'autre. De ce pan ou de l'autre pan. Donc c'est connu le verbe. Hein. Le mot est connu, c'est pas une invention. Mais en français, il est connu aussi. Pan de bois, ça veut dire pan de mur en bois, avec remplissage. Alors, c'est une palmeresse, et celle-là, elle est placée en bout, donc emboutissent, de mon point de vue. Mais si je vais de l'autre côté, je vais la trouver en Panresse et l'autre en bout, emboutissent. Bon, mais ça c'est tout, c'est sur la chaîne d'angle. Mais là, dedans, vous avez une Panresse, en voilà une. Vous avez peut-être celle-là, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir en profondeur. Elle va comme ça. Parce que dans un mur, il faut absolument lier les pierres. Ce n'est pas deux parements qui s'empilent et puis vache comme je peux, ça va tout s'évaser au milieu. Il faut qu'il y ait des pierres qui se chevauchent, qui se harpent et se déharpent. Bon. Alors, celle qui est sur le pan du mur, on l'appelle la Panresse. Celle qu'on plante en profondeur, on l'appelle la boutisse, en bout. Celle qui traverse complètement le mur, qui fait parement de ce côté et parement à l'intérieur, on l'appelle parpaing. Ne croyez pas que c'est anglais, c'est latin. Perpétis, perpétuel, qui va jusqu'au bout. Mais qui ne dépasse pas. Si elle dépasse, on l'appelle une perçante. Je répète, la Panresse sur le pan, la boutisse en bout en profondeur, la parpaine. Médiéval, il l'appelait parpaine, mais après c'est devenu parpaine, puis avec un G à la fin, comme si ça fait anglais, c'est affreux. Et elle va d'un bout à l'autre, c'est tout, mais elle fait parement des deux côtés. Alors ça, c'est très bon, ça lit parfaitement. Je vais vous dire pourquoi on a fait les parpaings. Quand je dis parpaing, vous voyez du bloc en béton, hein, ça c'est certain. Bon, alors c'est ça le parpaing. Et alors, la traversante, la traversière, la traversante, c'est une pierre assez fine, dégrossie, qui n'est ni bonne à mettre en parement, parce qu'elle n'a pas de bon parement, on ne sait pas quel arrêt tu trouvais. Alors là, mais en boutisse, mais de peur de la casser, ou on ne veut pas la casser parce que ça donne sur jardin, ce n'est pas important, on la laisse dépasser. On appelle ça une trocante, une perçante. Une perçante. Bon, il y a les nécessités techniques, les économies de pierre, et il y a les légendes. On va parler des légendes au sujet des perçantes. Tout le monde dit, elles étaient toutes arrosées par un litre de pierre. Bon, moi, c'est pas ma théorie, c'est pas du tout ça. Pas un litre de pierre, un litre de vin. J'arrive plus à savoir ce que je dis. Alors, du moment qu'on pouvait faire tenir un litre derrière, c'était bien. Alors, plus vous en passiez, plus vous pouvez boire de vin. Non, c'est une plaisanterie, c'est une galéjade de chantier. La réalité, c'est que c'est une pierre qu'on ne va pas casser. On ne peut pas la mettre en passerelle, en Panresse, ni en boutisse, mais on hésite à la casser parce que c'est une bonne pierre. Elle va traverser, d'accord ? Elle va dépasser, mais on est sûr qu'elle fait l'assise. Et ce n'est pas du tout disgracieux de l'autre côté.
Si on veut, à la limite, construire une autre habitation, on ne peut pas servir.
Non, c'est pas du tout pour ça. Non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. On peut bien greffer un mur mitoyen là-dessus. Non. Non, non, ça peut, non, 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 écartez cette hypothèse, il est complètement à côté de la plaque. Non, non, ne vous affolez pas, c'est pas fait du tout en attente. Il y a un mur qui serait en attente, il serait en harpe, etc., il ferait ça, il serait en attente d'un emboîtement. Mais ça peut pas être sur une façade bien maçonnée, bien montée, vous avez des perçantes comme ça, des fois elles sont alignées, les perçantes, on a mis une, là, parce qu'il y a aussi un goût d'harmonisation, de symétrie. Des fois, dans d'autres pays, c'est les boulins qui ont fait un creux et après ont mis une pierre dans les pays de calcaire de la Charente. Ça, c'est encore autre chose. Donc, j'ai parlé de tout ça, la perpétis, là, la perçante. Alors, dedans, au milieu du mur, parement intérieur, parement extérieur, on met ce qu'on appelle des garnis, les brisous, les petites pierres. Mais on ne les vide pas au seau, hein. On les aplatit bien avec le mortier. Il faut que tout ce monde-là se touche. Surtout si on travaille dans les murs anciens avec un mortier très fragile qui est au tuf. Bon, ça y est, passons pour les appareillages. De magnifiques appareillages. C'est, nous sommes au Compé, pays de la pierre, de très beau granit gris qui a pris de l'usure. Alors, il y a un couronnement, restons un petit peu là, une seconde, le couronnement du mur de cimetière, les piles, une autre pile. Il y a une recherche, je ne peux pas vous dire le style, mais il est très intéressant, il est d'une époque, probablement 19e, il imite le 17e. Les styles, il ne faut pas s'affoler dans les campagnes. Hein. On est des fois un siècle en retard, pas en retard. Mais avant que les modes, on continue à faire du gothique, de l'authentique, d'ailleurs peut-être au 16e, je ne sais pas très bien, mais dans les manières de procéder, avant, on n'a pas ni Internet, ni le courrier, ni la voiture, ni rien. Donc, c'est le colportage, et nous sommes des pays de montagne, ça arrive lentement, les manières nouvelles de faire. Là, vous avez un chaînage. Un chaînage, vous voyez, c'est le même principe. Une comme ça, une comme ça. Une en largeur, une en profondeur. Mais c'est un chaînage à plein mur. Il est fait pour tenir bien le mur. Ce n'est pas un chaînage d'angle. C'est un chaînage à plein mur. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. De bels appareillages. Alors, les appareillages, je vous ai dit tout à l'heure, je vous disais que appareiller, c'est rendre dans une figure pareille des ensembles, ou des éléments, ou des pierres. Si c'est des pierres taillées, on les taille toutes de la même manière. Alors, il y a trois manières de les tailler pour faire des appareillages. Je vais vous les montrer, si c'est possible. Mais si c'est du gneiss, on ne peut pas appareiller comme ça. Mais on appareille, les chaînes d'angle sont montées, et entre les deux, on tend une ficelle, et on remplit tout d'une chaîne d'angle à l'autre. Puis après, on recommence. Des fois, on fait un trait. Et puis, on recommence, on remonte au plomb des encoignures. Après, les fils vous disent le tracé. Alors, voilà, ici, on a ce qu'on pourrait appeler du grand appareil. Le grand appareil, ce sont des pierres de taille qui sont égales les unes aux autres, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Vous voyez, par exemple, ici, ce n'est pas tout à fait probant. Hein, vous voyez, c'est à peu près la même hauteur, mais là, c'est beaucoup plus certain. Voilà, on voit bien ça dans les bases de monuments romans ou gothiques, on voit bien ça même dans certaines maisons. Alors, le grand appareil, ça ne veut pas dire que c'est grand, ça veut dire que c'est le grand au sens noble. Hein, c'est mais gardez grand si vous voulez, parce qu'en réalité, ça correspond à des pierres un peu plus dimensionnées. Alors, le grand appareil, toutes les tailles de pierre sont par rang égaux en hauteur, en largeur et sur toutes les assises sont égales. Il y a trois égalités. En largeur, en hauteur et toutes les assises sont égales. Ça s'appelle le grand appareil, l'appareil le plus noble. Le deuxième appareil qu'on appelle appareil moyen, alors peut-être qu'on va le montrer là, celui-là, là. Alors, l'appareil moyen, chaque assise est toute de même hauteur, et les pierres qui sont dedans font toute la hauteur de l'assise. C'est que là encore, il y a le mot assise à expliquer. Mais en largeur ou en longueur, elles peuvent être différentes. Regardez bien là. Je voudrais avoir des choses plus évidentes. Alors, ça, c'est autre chose. On ne peut pas. Là, c'est un. Oui. Alors, je répète, moyen appareil. Les assises, c'est-à-dire première assise, deuxième assise, troisième assise, quatrième assise, ça veut dire assiser, asseoir, vous voyez bien. Alors, les assises sont de différentes hauteurs, mais les pierres qui sont dedans sont toutes de la même hauteur, mais pas de la même largeur, elles peuvent varier. Sauf qu'il faut absolument couper les joints. Le maçon se débrouille pour appuyer sa nouvelle pierre sur le joint. Bon, ça y est, on a tout dit là. Ah, le petit appareil, il n'est pas là. Voilà le petit appareil. Voilà. Alors, le petit appareil, et encore, c'est pas un véritable. J'ai une magnifique carte là de petit appareillage. C'est le pignon d'une grange à Bénévent, d'une maison à Bénévent. Alors, le petit appareillage, c'est l'appareillage roman de pierre pas plus grosse que ça. Je me mets comme ça, vous voyez en face, elle est carrée, elle est rudimentairement taillées, dégrossies, et elles sont toutes égales. Voilà, et elles sont petites. Petites, on appelle ça l'appareillage réticulé. C'est comme un filet. C'est à peu près toute dimension. Alors, allez voir, en voilà là. Voilà. Voilà, ben je ne les avais pas vus. Voilà, voilà le petit appareil. C'est très bien. On a beaucoup ça en Creuse. Dans la haute marche, pays de granit, vous voyez que les assises sont commandées par les encoignures. Encore, il y a du bricolage. Vous savez, c'est infini les choses retouchées. Les maisons survivent, elles ont peut-être 3-4 siècles. On ne sait plus comment. C'est pas possible de savoir des fois l'origine. Alors, il y a une thèse de certains chercheurs. Qui disent que ces appareils sont des récupérations à certains endroits de villas gallo-romaines, surtout en haute marche. Mais comme c'est immensément répandu, bon, je vous dis que la densité de villas gallo-romaines, ça devait être quelque chose. Et ça ne correspond pas tout à fait. Alors, C'est certainement très possible, hein, parce que les pierres restent les pierres. Elles peuvent passer les siècles, on s'en sert toujours, 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 à moins de les foutre dans les fonderies comme on fait aujourd'hui. Parce que la pierre, on s'en fout complètement, sauf en parade, pour faire joli, devant des murs maçonnés au béton derrière. Bon, alors voilà le petit appareil. C'est-à-dire, c'est pas à cause des petits, mais il n'est pas rigoureusement. Toutes les pierres sont à peu près égales, elles sont carrées. C'est l'appareillage réticulé propre aux villas gallo-romaines et aux romains. Ils connaissaient le grand appareil aussi, mais ils faisaient beaucoup de choses comme ça.
Et ce
tarp
au-dessus de la porte de décharge.
Alors ça, c'est des arcs de décharge, là.
Oui.
Ah oui, voilà. Non, c'est un arc de décharge en voûte. Voilà le sommier. Sommier, ça veut dire la base du lit sur lequel va poser le matelas. On appelle ça un sommier parce que les noms de charpente et de travaux sont humains, très souvent. Une jambe de force, un homme debout, etc. Un sommier, et puis des voussoirs. La clé et des voussoirs. Voussoir, 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 clé, voussoir, voussoir, voussoir. C'est posé sur un petit arc. Ça peut être des petites pierres qu'on met n'importe comment, ou un morceau de bois, qu'on laisse d'ailleurs. Pareil là-bas. Ça a été rempli. Sur les arcs de décharge,
il y en a d'autres après.
Voilà. Ah voilà, de beaux arcs de décharge différents. Il y en a un beau qui va manquer aussi là. Très particulier à la montagne. Alors, vous voyez, là, c'est en... Ah, il faut que je m'approche. Hein. Il y a une clé, oui, il y a une clé. Il faut l'avoir. Alors, voilà le sommier, l'autre sommier et la clé, mais une seule. Elle fait tout. Elle est posée, elle n'a pas dépassé. Et la charge du mur qui est dessus est renvoyée sur les colonnes, les pieds droits encore, ou homme debout, jambage. La pression qui descend d'en haut, les tonnes, sont renvoyées là par des arcs de décharge qui déchargent la charge, qui la renvoient à droite et à gauche. Alors il y a le premier décharge qui est ça, plus un deuxième arc de décharge, j'appelle un arc. Vous comprenez que ça peut presser, ça ne peut pas descendre parce que ça pousse à droite et à gauche. Même principe ici. Là, voici la clé, elle est descendue un peu la clé. Je ne sais pas pourquoi ils ont... Pourtant, ils font bien attention. Le sommier, la clé et contre-clé. Elle est un peu descendue, là aussi. Hein. Mais ça pourrait se relever. Hein. Vous mettez un vérin dessus, vous surveillez bien, puis vous inclinez, vous videz, vous donnez un petit mortier de par dedans. Ça se remonterait bien. Arc de décharge, point final pour les... Oh, là, il y a quelque chose à dire sur là-haut. Ça, c'est ce qu'on appelle des gazettes. C'est propre à la région autour de Limoges. C'est des éléments de petites casettes qui servaient pour englober, pour protéger la porcelaine du feu. Elles étaient en terre réfractaire circulaire. S'empiler, les porcelaines arrivent au milieu. Je ne suis pas porcelainier, je ne sais pas combien les mettez, mais ça s'appelle casette. C'est imité des Chinois. C'est à la fin du XVIIe qu'on a eu vent que les Chinois faisaient comme ça. Mais on ne faisait pas la porcelaine, mais ça a servi pour la faïence. Dans le parler, on a dit... Ici, on a dit casette, gazette, c'est devenu gazette, une gazette, mais ça n'a rien à voir ni avec le gaz, ni la gazelle non plus. Alors, on en trouve partout, sur le dos des murs, dans les pavages de villes, etc., mais vous verrez ça abondamment dans les entrées de vieilles maisons à Limoges. La brique, qui a toujours servi depuis les briquetiers existent depuis longtemps, mais l'industrie briquetière existe début du 19e. Quelle est-il ? Bien. Alors, pour arrêter les murs dans les pays où il n'y a pas de pierre taillable, ni grès, ni calcaire, ni basalte, ni granit, on est bien obligé d'arrêter les murs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait un encadrement charpenté. Voilà, alors il y a un premier un encadrement qui monte là, qui est mortaisé dans un linteau, et qui descend au pied. Et à l'arrière, il y a la même chose à l'arrière, le voilà là, celui d'arrière, et là, il y a un lien entre celui-là et celui-là qui est chevillé. Il doit y en avoir un autre plus haut, c'est pas dans l'ensemble. Il y en a deux, toujours deux. Hein. Là, c'est une pierre droite, et là, c'est je ne sais pas ce que c'est ça.
On en retrouve très souvent ça.
Hein?
On coche comme ça.
Comment?
On en retrouve très souvent les encoches comme ceci dans les coups.
Oui, mais moi, ça m'intrigue que ces encoches-là, parce que ça amoindrit, ça abîme, à moins qu'on ait donné une deuxième destination à la chose. Ça, ce n'est pas la photo de celui-là. Hein. Bon, je n'ai pas vu dedans comment c'était. Mais c'est le même principe. Je connais parfaitement la question. Enfin, parfaitement, je la connais bien. Et là, quand il y a des reprises, on ne sait pas. Si on a voulu encocher une porte pour empêcher je ne sais pas quoi passer, bien, on a encoché parce qu'il y a beaucoup de bâtiments agricoles qui sont de bâtiments, de maisons qui sont devenus agricoles et qui ont perdu de leur signification. Alors, oui, on trouve des fois dans les morceaux de bois, au plafond, dans les grandes poutres. Ah, vous trouvez dans les grandes poutres des chevilles qui montent en haut au plafond, qui sortent, parce qu'en haut on met une espèce de, comment on appelle ça, je perds tous les mots, de cri qui soutient le cochon suspendu. Et oui, oui, je sais pas, oui, si vous voulez, c'est un, alors, je vois bien, bon, bref, on perce la poutre. On fait descendre une corde et le pauvre défunt cochon est aligné sur une civière là, et pour le partager, parce qu'il fait froid au mois de février, c'est au mois de février quand tu sauves un cochon, il faut le dresser tout droit et là-haut vous avez un cri qui le soulève par la corde et ça passe par ce creux. Après vous l'arrêtez et vous avez le cochon suspendu et le paysan boucher, qui est devenu boucher et charcutier, fait son travail. Alors souvent c'est ça. Des fois, ça peut être pour tenir un ciel de rideau. Parce que n'oubliez pas que les anciens dormaient sous un ciel de rideau. Oui, et oui. Ah, bon,